Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour Jean-Pierre Bablon.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Institut et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, spécialiste d'Henri IV. Vous avez déjà eu la gentillesse de venir autour et alentour d'Henri IV. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre « Henri IV, lettres d'amour et écrits politiques » dont vous avez choisi les lettres, présenté les lettres. Le style d'Henri IV et le vôtre sont aussi superbes l'un que l'autre. Et je voulais qu'on parle un petit peu aussi de la transcription de ces lettres, langue, orthographe du XVIe. Comment avez-vous fait, vous ?
Eh bien, j'ai recherché les originaux. Il y avait des publications, des lettres innombrables, mais j'ai recherché les originaux aussi. J'ai bien analysé l'écriture. J'ai trouvé que Henri utilisait un français très moderne, sauf certaines expressions
Astor. Que j'ai
volontiers restées. Astor, n'est-ce pas, pour à cette heure, bon. Mais sinon, je n'ai pas fait d'effort pour transcrire dans un français moderne une langue qui me paraissait très fluente. Et c'est une langue qui n'est pas faite de grands développements, mais souvent de phrases courtes. Et donc, la lecture en est facile et agréable.
Et pour l'orthographe, est-ce que l'orthographe était fixée d'une façon absolue ? Est-ce que Henri IV, bien qu'il soit cultivé, suit-il toujours les règles d'orthographe ?
L'orthographe commençait à se fixer, à l'époque de Montaigne, par exemple. Il faut bien penser qu'Henri IV est un contemporain, strict contemporain de Montaigne, avec lequel il a eu d'ailleurs des entretiens politiques importants lorsque Montaigne était maire de Bordeaux. Et l'orthographe change peu, finalement. Non, c'est une orthographe assez régulière. Je précise que ces lettres sont ou des lettres autographes ou des lettres qui ont été dictées à ce qu'on appelait le secrétaire à la main, c'est-à-dire le secrétaire qui écrivait de la même manière que son maître, et il y avait donc un paraphe en bas pour attester que c'était bien le roi qui avait rédigé. Et puis on parle aussi quelquefois, quand le roi avait à rédiger très rapidement, qu'il écrivait sur le dos de ses grands valets, n'est-ce pas ? Parce que ça lui fournissait un pupitre commode quand il était pressé, qui descendait de cheval.
Il faut savoir que cet homme qui était extrêmement actif, et Dieu sait si sa vie a été dramatique, a pris le temps d'écrire un nombre incroyable de lettres, et qu'en fait, c'est une source aussi fabuleuse, parce que pour nous, c'est peut-être le seul monarque qui nous ait laissé des sources pareilles.
Oui, c'est extraordinaire. Ce qui prouve que les lettres ont été conservées comme des reliques
tout de suite,
par ceux qui les avaient reçues. Ça, c'est certainement l'une des raisons de cette manne extraordinaire. Premièrement, deuxièmement, il écrivait énormément, et vous ne pouvez pas en dire de même de Louis XIII ou même de Louis XIV pour des lettres de caractère personnel.
Qui n'écrivait pas mal non plus.
Qui écrivait pas mal.
Alors finalement, que nous révèle-t-elle cette production épistolaire ? On parlait du titre à donner à cette émission, on a pensé à Henri IV, homme de lettres, parce que c'est un peu un jeu de mots, épistolier et écrivain, car il se révèle un écrivain. Mais que nous révèle-t-elle ces lettres du caractère, de la spontanéité et de la poésie d'Henri IV ?
Elle nous révèle un homme qui avait, je pense, la première qualité, c'est une sensibilité au monde extérieur et à la relation qu'il avait avec les autres, tout à fait exceptionnelle. Bon, ça veut dire que ça n'est pas quelqu'un qui est dans son bureau, ça n'est pas quelqu'un qui est sur son trône, mais c'est quelqu'un qui parcourt toute la France, qui a compris les problèmes des uns et des autres, d'une part, d'autre part, qui s'est attaché à des hommes et à des femmes, bien sûr à des femmes, mais également à des hommes. La correspondance avec Sully est tout à fait passionnante. Et cette correspondance, bon, ça c'est une petite chose que je vous révèle après les recherches qu'on a faites au moment où on publiait des choses sur Sully, c'est que Sully nous rapporte beaucoup de lettres d'Henri et il les rapporte, c'est une de ses sources, dans les mémoires qu'il a écrites après sa disgrâce. Donc il était plein de rancœur, il voulait montrer au nouveau gouvernement de Louis XIII qu'il avait eu des relations très intimes avec Henri IV. Et ceci se transpose uniquement par un changement du libellé en tête de la lettre. Il met « mon cher ami », n'est-ce pas ? De très bonne heure, alors que la
c'était
première fois,
ça.
C'était pas ça, n'est-ce pas ? C'était « monsieur de Sully », quelque chose comme ça. C'est très amusant de voir combien Sully avait porté intérêt aux relations vraiment amicales qu'il avait eues avec Henri IV, et bien sûr jusqu'à la fin.
Avant qu'on parle de ces lettres plus précisément, on a déjà parlé de leur postérité, mais elles ont eu aussi un rôle important parce que dès le XVIIe et le XVIIIe, et on pense à Voltaire, on pense à tous ces historiens qui ont toujours connu ces lettres.
Oui, tout à fait. Elles ont joué un très grand rôle dans la légende héroïque d'Henri IV au XVIIIe siècle. Vous savez que le XVIIIe, ça a été le grand siècle pour la faveur de la population vers Henri IV, à travers les littératures, à travers les comédiens aussi, et bien sûr les artistes. Donc les épisodes de la vie d'Henri IV ont été présents dans la mémoire des Français d'une façon très forte, et notamment, essentiellement, avec Voltaire. Imaginez Voltaire choisissant comme thème d'une épopée la Henriade, n'est-ce pas, comme on parle de l'Énéide ou l'Odyssée, n'est-ce pas? C'est tout à fait extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire parce que pour un homme des Lumières, c'était un coup de chapeau à double importance.
Tout à fait.
Alors, il faut aussi noter que dans ce livre, vous avez eu la clairvoyance de donner les réponses. Enfin, pas toutes les réponses, parce que ce n'était pas possible. Parce que d'abord, on ne les a pas toutes. Mais ces réponses, ce qui est très rare, restituent le vrai ton de la conversation épistolière. Alors, quels sont les principaux personnages qui ont répondu?
Eh bien, dans les hommes, je citerai d'abord Sully, bien sûr, et puis bien sûr d'autres. Mais dans les femmes, bon, j'ai cherché des lettres qui étaient des réponses ou des premiers envois. Alors, de ces femmes qui ont joué un rôle si important dans la vie d'Henri IV depuis son enfance, c'est-à-dire sa mère, Jeanne d'Albret. Bon, n'oublions pas que c'était une femme avec une culture littéraire considérable, puisqu'elle était la fille de Marguerite d'Angoulême, célèbre humaniste.
La sœur de François Ier. La Marguerite des Marguerites.
Et puis, deuxièmement, sa belle-mère, Catherine de Médicis, avec laquelle il a un espèce d'échange de lettres qui ressemble à des joueurs d'échecs, n'est-ce pas? J'avance un pion, ma tour est ici, alors voilà, vous êtes échec et mat. Non, pas du tout, je ne suis pas échec et mat, voilà. Le ton des deux interlocuteurs est extraordinairement amusant, l'un et l'autre étant extrêmement futés. Alors vous avez des lettres avec Marguerite de Valois, sa première femme, une femme extraordinairement cultivée également. Et puis, bien sûr, des lettres avec sa sœur, Catherine, n'est-ce pas, qui était restée une note tout à fait fidèle. Et puis, après ça, bon, ses maîtresses, la première qu'il a tenue, je dirais, en laisse politique, en lui donnant de bons conseils, qui était la catholique Corisande d'Andouin, la duchesse de Gramont, c'est-à-dire quelqu'un du sud-ouest.
C'était une catholique qui conseillait un protestant, car à l'époque,
oui,
c'était...
Absolument. Elle le conseillait même sur le plan de sa stratégie à la fois politique et militaire. Et les lettres qu'il lui envoie sont quelquefois de véritables bulletins de guerre qui racontent la dernière bataille. Ce qui fait que si vous aviez des espions du clan catholique qui coupaient la route à celui qui portait la lettre à Corisande, ben ils avaient des nouvelles. C'était le journal, n'est-ce pas? Ils avaient des nouvelles de la dernière bataille, ce qui était vraiment dangereux.
C'était très dangereux.
Très dangereux.
Et ça me montre à quel point c'était un homme de communication,
oui,
et qu'en
oui.
fait, les lettres, c'était les nouvelles, le journal
bien sûr,
de
c'était
l'époque.
C'était le journal, n'est-ce pas?
Mais ce qu'il faut bien que l'on sache, c'est que ce n'est pas que des lettres d'amour, ce sont des lettres politiques, des lettres d'un homme aux abois parfois. On pense aussi à ses réflexions quand il écrit à Gabriel qu'il va abjurer. Il trouve des formules qui sont touchantes pour nous. Il parle de saut périlleux. Je vais faire le saut périlleux, car il savait bien. Il savait bien que c'était extrêmement dangereux.
Oui, il faut bien comprendre, ça n'est pas une plaisanterie, le mot saut périlleux. D'ailleurs, la phrase précédente, c'est « Demain, je rencontre les évêques pour voir en quels termes je vais abjurer. » Et je vais faire le saut périlleux. Ça veut dire je vais faire un saut, premièrement. C'est-à-dire je vais sauter, véritablement, je vais me mettre en péril. Et le péril, ça n'est pas de faire une pirouette en l'air. C'est qu'il veut être sûr, c'est son obsession, que la religion catholique lui permettra d'accéder, après sa mort, au ciel, autant qu'on lui avait laissé penser la religion protestante. Le péril, c'est le péril de son âme, n'est-ce pas?
Oui, car nous allons parler dans une de ces lettres, Dieu est très important pour lui. Les rites religieux, c'est une chose auquel il a un petit peu dérogé parce qu'il avait l'expérience historique qui lui montrait que c'était pas tout à fait fiable, mais Dieu, non, c'était autre chose. Dans une de ces lettres, c'était une lettre adressée aux notables de Rouen. Le 4 novembre 1596, il parle de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous lire quelques lignes ?
Il s'adresse à l'Assemblée des notables à Rouen, n'est-ce pas ? Rouen est une ville absolument essentielle pour lui, puisque ça a été l'une des forces stratégiques pour lui pour reconquérir petit à petit le nord de la France. Et c'est pour ça qu'il dit « Vous savez, à vos dépens, comme moi, au mien, que lorsque Dieu m'a appelé à cette couronne, j'ai trouvé la France non seulement quasi ruinée, mais presque toute perdue pour les Français. Par la grâce divine, par les prières et bons conseils de mes serviteurs, qui ne font profession des armes, par l'épée de ma brave et généreuse noblesse, de laquelle je ne distingue point les princes, pour être notre plus beau titre, foi de gentilhomme, par mes peines et labeurs, je l'ai sauvé de la perte, sauvons-la, à cette heure, de la ruine. Participez, mes chers sujets, à cette seconde Loire avec moi, comme vous avez fait à la première. » Voilà, et après son abjuration, lorsque viennent des personnes de haute autorité viendront lui dire « Mais voilà, mais nous voulons que vous sachiez prier Dieu, etc. » Il le répond vertement, n'est-ce pas, « Mais priez Dieu, mais je le fais parfaitement, je le fais mieux que vous depuis si longtemps. » Voilà.
Et il le fait tout le temps, parce qu'il le fait même au cœur de l'action.
Tout à fait, tout à fait. Et alors, je peux vous dire qu'effectivement, quand on regarde son emploi du temps, on s'aperçoit qu'il disait des prières, j'imagine, presque tous les jours, et on a retrouvé son livre de prières qui est exposé à l'exposition qui dure peut-être encore aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye.
Quand on pense à Henri IV, on ne pense pas forcément au fait qu'il était un si grand orateur, un harangueur. Parce que si nos hommes politiques savaient parler avec cette détermination, nous serions certainement très touchés. Le 1er octobre 1595, il s'est adressé au Parlement de Paris, et c'est resté célèbre parce que c'était la harangue au Parlement de Paris, et il y a des passages qui sont presque émouvants, tellement cet homme se démenait pour essayer d'arriver à ses fins, pour le bien de la France et de Dieu, et des sujets, car il aimait ces sujets.
J'ai fait un long voyage, mais non pas si long que j'eusse désiré, car si j'eusse pu être encore 6 semaines par-delà, j'eusse nettoyé toutes mes affaires qui sont grandes. Mais Dieu m'aidera comme il a toujours fait. Je suis venu en poste sur l'avis de mes meilleurs serviteurs que ma présence était nécessaire. J'ai eu de l'avantage sur mes ennemis, mais la force ne vient point de moi, mais de Dieu seul. Vous dites que là où je suis, tout se porte bien, il est vrai. J'en loue Dieu. Le connétable de Castille n'a rien emporté sur moi. Je ne puis pas être partout, vous savez ce qui s'est passé en Picardie. Je voudrais ne m'en point souvenir. Je ne veux accuser personne de faute de courage. Au contraire, il y en a eu qui n'en avait que trop. Je m'en vais mercredi. Je me porte bien. Je suis venu au pas et je retourne au galop. Il ne me faut rien que de l'argent. J'ai perdu mes meilleurs chevaux. Il faut que j'en achète d'autres ici pour mon voyage. Ce n'est point pour faire des masques et des balais. C'est pour chasser les ennemis en leur pays. J'espère les y mener tambour battant. Les États m'envoient des gens de guerre. Tout ira bien si j'ai de l'argent. »
Thank you.
Quand on parle de lui, bien sûr, on pense toujours aux lettres d'amour, mais il y a aussi des chefs-d'œuvre. Il a un sens profond de la nature, peut-être que ça vient de son enfance. Et c'est la fameuse lettre qui décrit l'île de Maran. Il l'adresse le 17 juin 1586 à sa chère et tendre Corisande, qui était en fait son éminence grise.
Tout à fait. Il avait besoin d'elle, et puis il lui écrivait, il lui envoyait des lettres, en l'appelant quelquefois « Petiot », n'est-ce pas ? Ça prouve qu'elle se considérait comme une espèce de gouvernante vis-à-vis d'un jeune homme pour guider ses pas. Alors je rappelle que cette lettre est une lettre qui a été souvent reconnue comme un chef-d'œuvre. Et c'est, je crois, l'occasion de citer l'expression merveilleuse de Marcel Proust qui parlait du français exquis d'Henri IV. « J'allais hier soir, c'est-à-dire hier soir, de Maran » qui, je le rappelle, est un port important. C'est une presqu'île à côté de Brouage, en Charente-Maritime. C'était un port important. J'ai hier soir de Maran où j'étais allé pour pourvoir à la garde d'Isselui. Ah, que je vous y souhaitais. C'est le lieu le plus, selon votre humeur, que j'ai jamais vu. Pour ce seul respect, suis-je après à l'échanger. Bon, il faudrait échanger la signarune en l'emprunt processeur. C'est une île renfermé de marais bocageux, où de 100 en 100 pas, il y a des canaux pour aller chercher le bois barbateau. L'eau claire, peu courante, les canaux de toute largeur, les bateaux de toute grandeur. Parmi ces déserts, 1000 jardins, où l'on ne va que par bateau, l'île a 2 lieues de tour ainsi environnée. Passe une rivière par le pied du château, au milieu du bourg, qui est aussi logeable que peau. Peu de maisons qui n'entrent de sa porte dans son petit bateau. Cette rivière s'étend sur 2 bras qui portent non seulement grands bateaux, mais les navires de 50 tonneaux y viennent. Il n'y a que 2 lieues jusqu'à la mer. Certes, c'est un canal, non une rivière. Contremont vont les grands bateaux jusqu'à Niort, où il y a 12 lieues. Infinis moulins et métairies insulées. Tant de sortes d'oiseaux qui chantent, de toutes sortes de ceux de mer. Je vous en envoie des plumes. De poissons, c'est une monstruosité que la quantité, la grandeur et le prix. Une grande carpe, 3 sols, et 5 sols un brochet. C'est un lieu de grand trafic et tout par bateau. La terre est très pleine de blé et très beau. L'on y peut être plaisamment en paix et sûrement en guerre. L'on s'y peut réjouir avec ce qu'on l'on aime et plaindre une absence. Ah ! Qu'il y fait bon chanter.
Nous sommes dans les bucoliques.
Les bucoliques, voilà. Et les bucoliques mélangés avec l'appréciation matérielle, n'est-ce pas, de la réalité économique du pays, avec le prix du poisson, n'est-ce pas, et le tonnage des bateaux qui peuvent entrer. Ce mariage est extraordinaire.
Oui, parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il avait le sens de l'économie du peuple et de ce que pouvait en faire le peuple. Donc, c'est un homme qui aime les Français.
Ah oui, ça, c'est certain.
Pour conclure, Jean-Pierre Bablon, qu'est-ce que vous pourriez évoquer encore de si magique chez Henri IV ?
Eh bien, cette magie, cette perception du caractère de l'homme ou de la femme qui est en face de lui. Et il écrit à quelqu'un qu'il connaît, c'est ça. Bon, d'ailleurs, c'est l'agrément que j'ai cherché à avoir dans ses lettres et ses réponses, c'est qu'il y a vraiment un dialogue qui s'établit. Je reprends mes termes du début, ce n'est pas l'homme dans son bureau ou le roi sur son trône, c'est vraiment quelqu'un qui parcourt la France, qui connaît, qui apprécie et qui entretient aussi, ça c'est assez touchant, des témoignages d'amitié. Par exemple, quand il apprend que Sully a été blessé, il lui écrit en disant « Voilà, je vais aller vous voir, mais surtout ne vous fatiguez pas, reposez-vous, voyez des médecins. » Donc, une attention à l'autre. dans l'affection, et aussi bien pour des hommes que pour des femmes, qui est tout à fait étrange et émouvante. Et c'est cette humanité extraordinaire qui s'exprime par sa bouche, la bouche de cet homme qui, bien évidemment, avait tellement de défauts qu'en 1609, les gens le détestaient, n'est-ce pas? Et que c'est le poignard de Ravaillac qui en a fait un homme béni de Dieu. Mais il y a un sentiment d'une humanité extraordinaire, puis d'une familiarité. Bon, je vous ai pas parlé des lettres qu'il écrit à Madame de Montglas, qui était la gouvernante du petit dauphin, qui va être Louis XIII. Elle lui racontait les bons mots du dauphin et lui disait « J'irai à Saint-Germain samedi, etc. » Mais surtout, s'il fait l'obstiné, n'oubliez pas de le fouetter, car j'ai été moi-même beaucoup fouetté dans mon enfance et ça m'a bien servi.
On a parlé du style inimitable qui n'appartient qu'à lui et qui lui donne effectivement la place de grand écrivain français. Pour commencer, vous aviez parlé de Montaigne et puis on terminera par là parce que Montaigne, vous le dites dans votre avant-propos, soit il est aussi un écrivain, bien sûr, mais il a mis en forme ses essais. Henri IV n'a rien mis en forme du tout. C'était une spontanéité totale et on ne peut pas penser que c'était vraiment fait pour servir à la postérité. C'est pour ça que c'est encore plus touchant, plus intéressant.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. J'ajoute que Henri IV, contrairement à ce que disait son camarade d'école d'Aubigné, était un homme qui lisait, n'est-ce pas ? Contrairement à ce qu'on a pu penser. Dans les premières éditions de Don Quichotte, il a lu Cervantes. Et il y a donc une familiarité avec l'écrit, avec la poésie aussi, qui est importante et qui vient encore une fois d'une part de l'entourage familial dès ses premières années. Et puis aussi, il est allé au lycée. Hein. Il est allé au collège, un collège royal qui avait été établi dans Paris. Lorsqu'il était à la cour des Valois, il allait avec ses petits camarades. Ses petits camarades s'appelaient Charles IX et Henri III, n'est-ce pas ? Donc, il y avait aussi une culture enseignée en dehors de celle qu'il trouvait dans sa famille.
Merci beaucoup Jean-Pierre Bablon. J'espère que vous nous ferez la gentillesse de revenir encore pour nous parler des sujets qui nous font autant rêver.
Merci de votre accueil.